Alors bon, on entendait quelqu'un là, que tu connais bien, Nathalie.
Oui, je la connais bien.
Très, très bien même.
Oui, on reçoit Catherine Brunet.
Eh oui.
Catherine Brunet qui est ma fille.
C'est ça. Donc, on avait envie de réunir mère-fille, pourquoi pas.
Ben, ouais.
Alors, c'est très, très chouette de vous avoir à la fois toutes les deux. Alors, c'est vraiment très agréable de passer cette heure avec toi, Catherine. Et puis, ben, j'ai l'impression de te connaître parce que... Évidemment, j'ai beaucoup entendu parler de toi au cours de l'été, ayant côtoyé ta maman comme ça tout l'été. On a eu une belle complicité, elle et moi. Oui. Alors, ça a été fort chouette. Oui, ben parlons de toi, évidemment. C'est sûr que je ne sais pratiquement pas par où commencer. On va commencer par le début, finalement.
Commençons par le commencement.
Oui, voilà. Il était une histoire vraiment très chouette d'une petite fille qui a commencé, c'est ça, bien jeune. Je pense que tu ne te souviens même pas de tes débuts. Tu étais trop petite.
Ben les débuts, en effet, c'est ça, c'est sûr, je m'en rappelle pas parce que j'avais quelques mois à peine au début. Je regarde ma mère parce que c'est comme des affaires qu'elle sait plus que moi dans le fond. Oui, c'était des photos pour les magazines de type Sears et Zellers.
Ouais.
Et, fait que c'est trop vieux pour que je m'en rappelle. Ouais.
Mais à quel moment tu prends conscience vraiment de ce qui t'arrive?
Mais je pense que je me rappelle. Tu sais, là, après, je sais plus est-ce que c'est parce qu'on me l'a raconté ou est-ce que c'est des vrais souvenirs. Mais moi, dans ma tête, c'est des vrais souvenirs. Mais je me souviens très bien de la première pub que j'ai faite qui est une pub de McDo. Je me rappelle de certains moments, je me rappelle de flash, je me rappelle la frénésie d'un plateau de tournage, puis de m'être bien sentie, en tout cas, à ce moment-là. Fait que, tu sais, je me rappelle quand même de beaucoup de choses. Je me rappelle la première fois où je me suis dit, ah, OK, ça, c'est un métier, puis je pourrais le faire toute ma vie.
Ouais.
C'était sur Le Petit Ciel, c'est comme ça?
Ah oui, c'est un film.
Tu as quel âge à ce moment-là?
J'avais 8 ans.
OK. Mais ça, c'était pas loin du monde de Charlotte, là?
Non, en effet. C'était 2 ans avant le monde de Charlotte. Puis c'était comme la première fois, en fait, où j'étais sur un film plus qu'une journée, que j'avais comme un rôle récurrent, là, tu sais, où je revenais, ouais. Je pense, j'avais 7 ou 8 jours de tournage. Puis donc, j'avais eu le temps de m'attacher à l'équipe, aux acteurs, puis de réaliser, finalement, que oui, c'est un métier. Puis je me rappelle très bien, j'étais dans la voiture en revenant du tournage, puis j'ai réalisé que je pouvais faire ça toute ma vie.
Mm-hmm.
Puis ça m'avait... Je me rappelle avoir été très émue de ça puis d'avoir été heureuse.
Ouais, parce que tu voyais quand même la télé, tu voyais des personnages, tu voyais des
ouais, mais quand
émissions
t'es
de enfant, télé pour
enfants. C'est pas... On dirait qu'on...
C'est pas concret.
Ben c'est pas concret. On sait pas vraiment c'est quoi. C'est une boîte, il y a des gens dedans. Puis moi, je le faisais en parallèle, mais je comprenais comme pas le lien, je pense. Puis c'était plus comme un loisir. T'sais, mes parents me le vendaient beaucoup plus comme un...
Une activité, comme mon frère
qui jouait au hockey. Puis comme, fait que moi, je le voyais comme une activité, un hobby, un loisir. L'école, c'était très important. T'sais, un jour, j'allais avoir un vrai métier dans ma tête.
Activité parascolaire.
Ben exact. Mais il faut le voir comme ça, je pense, quand t'es enfant, parce que sinon, c'est trop bizarre.
Oui, c'est peut-être bête la façon que je le dis, mais je le disais comme ça. Alors, je disais à Catherine, parce que des fois, il y a des jeunes, même très jeunes, qui commencent un peu à se prendre pour d'autres.
Mais ça, c'est à cause des parents.
Ben exactement, c'est à cause des parents. C'est dommage, là. Mais, et puis, je disais à Catherine, faire ce que tu fais... Tant mieux, tu as du talent, mais tu n'as pas plus de mérite que celui qui travaille chez McDonald's à 12 $ de l'heure. Tu n'as pas plus de mérite que ton frère qui s'entraîne 6 jours, 5 jours semaine. Fait que tu as du talent, tu as du plaisir, tant mieux. Mais Catherine a tout fait. Elle a fait de la natation, elle a fait du plongeon, elle a fait de la gymnastique, elle a fait de la danse, elle a tout fait.
Ouais.
Mais c'est ça.
Oui, parce que toi, tu t'étais fait dire que, bon, comme elle était très active, hein, elle était brillante, forcément, et comme tous les enfants brillants, ben ça bouge, et puis...
Faut qu'il fasse quelque chose.
Ben, oui. Alors, on t'avait dit, il faut l'occuper.
Ouais,
et toi, tu as pris ça à la lettre.
Oui, exact.
Ben, en fait, au départ, Catherine va continuer, mais au départ, parce que
t'en souviens peut-être pas... C'est un bout que tu connais plus que moi, vraiment, là.
Alors, Catherine, à 4 ans, elle lisait.
C'est ça, elle était très douée, très précoce.
Ouais, elle lisait à 4 ans, puis à un moment donné, il y a une femme qui m'a dit « Mais tu peux pas la laisser entrer à la maternelle alors qu'elle lit déjà. Alors, tu vas aller passer des tests avec elle et tout ça. » Et bon, résultat des tests, il y a 2 tests qui étaient passés, le test du QI, puis un autre test dont je me rappelle pas le nom. Le QI, le psychologue a dit « J'ai arrêté de compter à 150, fait qu'il est 150 plus. » Puis l'autre test, il m'a dit « Ce test-là, il dit, c'est pour évaluer la différence d'âge réel et l'âge mental. » Donc, il y a un gap entre les deux. Puis, il dit, ça fait 25 ans que je fais ça, j'ai jamais vu un gap aussi grand. Catherine, elle a une maturité que...
Mais ça a stagné après, hein? C'est important de le mentionner, là.
Non, je sais pas. Mais il y a des avantages et des désavantages, de toute façon, à toute situation.
Bien sûr. Oui, c'est ça. Ça a l'air comme positif, dit comme ça. Puis oui, je pense que ça peut l'être pour certaines situations, puis pour certaines situations de vie. Puis justement, moi, ça m'a permis de... que mes parents me fassent faire des activités, là, beaucoup, puis de voir qu'est-ce que j'aimais là-dedans. Puis... Mais j'apprends aussi à vivre avec ça, parce qu'à l'époque, on parlait pas de douance. Là. C'est pas un terme qui existait.
Non, c'est
comme le TDAH, ça n'existait pas, c'était hyperactif, puis ah ouais. Là. Donc moi, c'est comme plus tard que j'ai réalisé que c'était ça dont je, entre parenthèses, souffrais, parce que c'est la neurodivergence, c'est pas juste comme « wow, elle est si brillante », c'est pas ça, tu sais, c'est... Ça vient avec des avantages et des désavantages.
Oui, bien sûr, parce que l'intelligence émotionnelle, ben ça, on l'acquiert aussi.
Exact.
C'est pas parce que t'as un QI très élevé que tu as de la maturité pour autant.
Non, puis ça vient aussi avec de l'anxiété, avec beaucoup de trucs aussi que je découvre en lisant en ce moment, tu sais, la reconnaissance des visages, c'est niaiseux, mais toute ma vie, moi, j'ai pas été capable de reconnaître les gens. Puis je sais que c'est, tu sais, il y a des gens qui ont, ça peut être à plusieurs échelles, là, mais j'ai réalisé récemment que c'était un truc qui venait avec la douance, c'est de pas être capable d'identifier des visages rapidement. Fait que tu sais, il y a des trucs qui sont pas des avantages du tout, qui sont super bizarres.
Non, c'est sûr,
bizarres.
Mais maintenant, on sait que la douance fait partie des neurodivergences.
Exact, c'est ça.
Alors, ce qu'on pensait pas auparavant.
Exact.
Non. Mais quand tu parles d'anxiété, c'est quand un autre niveau, c'est-à-dire que c'est pas juste une petite crise d'angoisse ou...
Une petite crise d'angoisse, déjà, je veux juste dire,
c'est pas
agréable.
Ouais, exact. Non, c'est pas...
Quand
tu penses
que t'es en train de mourir.
Je ne veux pas dire crise. Je parle juste d'un moment, comme moi, des fois, j'ai des petites périodes d'angoisse. Je parle pas de ça.
Okay.
Je ne parle pas de ces périodes-là. C'est vraiment de l'angoisse et...
Anxiété, en fait.
Anxiété, effectivement.
Puis c'est des trucs, oui, c'est ça, des affaires qui peuvent empêcher de fonctionner. Puis des. Ben, quand j'étais jeune, tu sais, ça, tu vois, d'ailleurs, pendant la pandémie, j'ai recommencé à faire énormément d'anxiété. Puis j'avais des tocs quand j'étais jeune. Puis là, j'en ai redéveloppé. Quand l'anxiété devient très grande, je développe des tocs, des tocs physiques, des tocs, tu sais, il faut que j'aille barrer la porte chez nous 52 fois. Là, je suis rendue à 20 minutes en voiture, puis je dois revenir chez moi. Yeah. Parce que je me dis, mon chien est dehors, alors que c'est impossible que mon chien soit resté dehors. Puis... Fait que c'est ça, c'est tous des petits trucs
c'est
qui viennent avec
ça. C'est ça, parce qu'on perçoit les gens qui ont cette forme de neurodivergence. Évidemment, ils ont des perceptions différentes.
Oui.
Et puis ça va tellement vite dans leur tête qu'ils n'arrivent pas souvent à départager. Enfin, les émotions qui viennent avec ça, ça peut... Alors, des enfants, parfois, qui crient beaucoup, là... vont crier, qui ne savent pas trop comment gérer tout ça. Ça fait partie aussi. Puis des fois, on leur détecte une forme de douance là, qui fait que le cerveau va trop vite et puis tout le reste ne suit pas nécessairement. Alors, c'est complexe.
C'est pour ça que c'est bien d'en parler aussi, parce que justement, moi, je ne savais pas. Puis des fois, tu vis avec des émotions, tu es ado, tu es jeune, même adulte, tu peux ne pas savoir ce que tu vis. Parce qu'on parle énormément de, justement, le TDAH, l'hyperactivité. On parle de plus en plus de ces troubles de neurodivergence, puis c'est vraiment bien. Puis moi, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que je trouve que c'est le fun de pouvoir le démystifier aussi, puis de... C'est ça.
Ben c'est ça. On devait parler de ces choses-là un peu plus tard dans l'émission, mais on en parle tout de suite.
Mais
finalement,
on a commencé par le commencement.
Ouais, exactement. Parce que c'est important, parce que ça fait partie de ton engagement.
Oui.
Tu as plein d'autres causes, et puis on va y revenir. Mais ça, effectivement, la douance, c'est quelque chose que tu expliques très bien,
mais
et puis c'est important.
Oui, je trouve ça important, parce qu'on disait tantôt, on va partir du début.
Oui.
Le début, c'est
ça. C'est un peu ça.
Parce que quand le psychologue m'a dit, ben Catherine, elle est surdouée. Donc, ou elle va dans une école spécialisée, ou tu l'envoies dans une école régulière, mais parallèlement à l'école, elle fait d'autres activités. Et c'est là que ça a commencé. Parce qu'on a fait toutes sortes d'activités, mais encore là, c'est des activités de soir, de fin de semaine, donc elle allait à l'école. Alors, c'est un hasard, là. Il y a un agent qui a vu Catherine, qui était tellement allumée, l'agent girafe, puis là, ils l'ont approché, puis ils m'ont dit on aimerait se l'avoir dans l'agence. Puis à 4 ans, elle a commencé à travailler, puis elle manquait beaucoup d'école.
Ouais.
Ce qui était correct aussi, parce que c'est ça, c'était facile l'école.
Exact. Ouais. Alors donc, de là vient finalement toutes ces activités que tu as faites. Tu as compris un jour que c'était le jeu qui t'intéressait.
Ouais. Bien, le jeu, est-ce que c'est le jeu ou ce milieu-là, le fait de jeune, justement, mais d'avoir à apprendre des textes, d'être stimulé, de discuter avec des adultes?
Oui, parce que tu arrives dans un monde d'adultes, c'est ça qui est particulier. Ouais. Et là, tu reviens à l'école, mais on t'a traité en adulte sur des plateaux de tournage. Et là, tu sais, ça devient... je t'entends dire que oui, quand tu réponds au directeur d'école comme un adulte, au lieu de... Oui, c'est autre chose, là.
Bien, je pense qu'il y a des profs qui m'adoraient comme autant qu'ils me détestaient. Fait, mais le meilleur exemple, c'est ça, c'est que un de mes directeurs au secondaire, j'étais tellement souvent dans son bureau qu'il m'avait donné un cadeau à Noël. Tu sais, genre, c'est de la mouraine, là. C'était... Mais cela dit, en même temps, je voulais tellement... être impliquée dans mon école secondaire, puis je voulais vivre les choses comme une vraie ado. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je voulais absolument organiser le défilé de mode de mon école, qui était le truc de financement pour le bal. Puis, fait que je voulais... J'ai toujours voulu tout vivre, puis c'est ce que j'ai essayé de faire, je pense.
Mais malgré tout, finalement, justement, parce que tu avais cet intérêt pour tout faire, mais aussi être impliqué à la fois à l'école, avec tes amis, tu as su trouver un équilibre. C'est ça qui est extraordinaire, ce que tout le monde ne réussit pas à faire.
Bien, est-ce que je l'ai trouvé? Je pense que oui. En tout cas, ça fonctionne.
Selon maman, oui.
Oui, c'est exact. Après, est-ce que c'est trop? Peut-être.
Quand on parle d'équilibre, on parle, Catherine, t'es une fille qui fait beaucoup de sport.
Oui.
Bon, tu joues au hockey l'hiver, tu joues au baseball l'été, tu t'entraînes.
Oui, c'est ça.
Bon, tu fais beaucoup de sport. T'as beaucoup d'amis.
Oui.
Tu prends le temps et t'apprécies beaucoup tes amis.
Oui, tu les entretiens, tes relations aussi. Hein?
T'entretiens vraiment. Non,
tu... ça fait partie de l'équilibre.
Mais sauf que des fois, c'est beaucoup. C'est ça que je veux dire, dans le sens où des fois, je me dis, c'est le fun de maintenir cet équilibre-là, mais des fois, c'est un peu comme un château de cartes, là, tu sais. Fait que c'est ça, il y a des moments...
On en perd des petits morceaux, parfois.
C'est ça. Fait que des fois, il y a des moments dans la vie où je me dis, bon, là... je vais prendre un break de certaines affaires, tu sais, comme la job, par exemple. Exact. Parce que ça fait tellement longtemps que je le fais. Des fois, je peux me permettre de ne pas tant travailler cette année.
Mais alors, donc, tu allais travailler étant toute jeune. Tu faisais le monde de Charlotte, effectivement. Tu étais dans une autre famille, finalement, à la télé. Une belle famille aussi.
c'est drôle, d'ailleurs, mais c'est une petite anecdote. Mais c'est parce que Marie-Thérèse Fortin, quand elle faisait ma mère, qui est l'actrice qui faisait ma mère dans le monde de Charlotte, quand elle a montré le premier épisode à ses enfants, qui avaient comme 6-7 ans, sa fille s'est mise à pleurer, puis elle a dit « C'est pour ça que t'es jamais là, maman, t'as une autre famille!
» C'est trop drôle!
Fait que oui, j'avais une autre famille.
C'est très drôle. Oh là là, bon. Alors, toi, t'étais pas jalouse,
Non, pas du tout.
De l'autre
famille. Non, puis Marie-Thérèse et moi, on avait des bons contacts, puis c'était vraiment le fun. Non, j'étais d'autant plus contente qu'elle soit avec Henri Chassé, Marie-Thérèse Fortin, il y avait Bianca Gervais, Émile Mayotte qui faisait la famille. Puis je laissais, écoute, elle était petite, elle avait 9 ans. Là, je la laissais à la porte de Radio-Canada avec sa petite boîte à lunch. Bye, bonne journée. Puis elle passait ses journées dans le sous-sol de Radio-Canada.
Et elle a fait ça des années de temps.
6 ans de temps.
Oui, exactement. Et puis, il va y avoir quand même une vie normale, les amours et tout. Mm-hmm. Alors, vraiment. Et puis, c'est sûr que tu as avec les amis. Et puis après ça, ça continue, là, ça déboule, les projets. Là. Il va y avoir plein de choses. Il va y avoir le projet qui va suivre, c'est Ramdam. Ouais. Exactement.
Exact.
On va devoir aussi dans Watatatao.
Oui,
ça c'était avant.
Mais c'était comme ça, c'était pendant, il y a eu beaucoup de trucs.
Il y a des choses qui se chevauchent.
Oui, bien sûr.
Je ne dirais pas ça dans l'ordre, on ne va pas s'imposer ça.
Non, mais...
et puis, on va faire des sauts dans le temps aussi.
Bien
sûr, à tous les projets. Mais parallèlement à ça, ce que tu as commencé à faire très jeune aussi, c'est du doublage.
Ouais.
Alors là, parlons-en parce que, écoute, il faut le dire, cette semaine, on a quand même c'est en début de semaine. Et oui, on a reçu Jean-Philippe Barry-Guerrard. Il faut le dire, là, toi, tu es Barbie. Tu es celle qui a finalement prêté sa voix à Barbie, mais tu en as fait tellement d'autres, on va y revenir. Mais c'est que Jean-Philippe, lui, c'est Ken.
Ouais.
Alors j'ai appris ça aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il avait fait la voix de Ken.
Mais c'est mon grand ami aussi. On s'est rencontrés comme ça en doublage, d'ailleurs. Puis de là est née cette grande amitié entre lui et moi.
Et oui, puis en fait, on a parlé en début de semaine avec lui d'intelligence artificielle. Et tu as joué justement dans l'adaptation d'une de ses œuvres, d'un de ses romans.
Tout à fait, Manuel David Sauvage.
Ouais.
Mais ça, c'est drôle parce que ça vient du fait que... En fait, il y a un roman qui s'appelle Sport et divertissement qui parle d'une jeune actrice qui est son premier roman, qui est inspirée grossièrement de notre amitié, de notre relation, puis de moi, un peu, en quelque sorte. Puis c'est ce personnage-là qui revient dans presque chacun de ses romans, qui est dans Manuel d'Avis Sauvage et donc qui a été porté à l'écran. Et donc, c'est pour ça que je jouais dans l'émission.
Bon, c'est ça. Alors donc, c'est Antoine... c'est Antoine... voyons, j'oublie son nom.
Pilon.
Pilon, voyons, c'est ça. J'étais rendue... je l'appelais Pilote. J'allais l'appeler Pilote. Antoine Pilon qui jouait... enfin, le personnage principal qui partait sa start-up. Là, c'était sur les avatars posthumes. On en a parlé en début de semaine. Alors, très intéressant. Mais bon, il y a eu plein d'autres choses. Évidemment, plus récemment, là, on pense à Cinquième rang. On pense, bien sûr, à plein de séries. Tu as joué dans In Memoriam.
Ouais.
Série extraordinaire. Et
disponible sur Crave.
Toujours disponible, bien sûr. Détective surprenant avec Patrick Yvon aussi.
Ouais.
Vraiment. Alors, tu as joué toutes sortes de rôles aussi. Tu passes du drame à la comédie assez facilement, hein?
Ben, assez facilement, je sais pas. Mais je le fais parce que ça m'intéresse aussi, dans le sens que c'est le fun, je pense, pour des acteurs de jouer des trucs différents. Je pense que c'est le rêve de tous les acteurs. Puis je suis très contente à date que ça fonctionne puis que j'ai la chance de jouer des choses qui sont diamétralement opposées, souvent.
Parce que t'as joué, bon, on parle de In Memoriam, détective surprenant, où tu étais policière quand même.
Exactement, oui.
T'as fait Marche à l'ombre, où t'étais criminologue.
Oui, mais ça, ça fait un
ça fait longtemps, mais ce que je veux dire, c'est quand même des préparations de personnages. Ouais. Tu les fais comment? Parce que dans In Memoriam, t'étais quand même une junkie.
Toxicomane. Exactement. Tu as joué souvent des écorchés, là, faut le dire, des personnages un peu sombres.
Mais ça dépend. Mais oui, In Memoriam, ça, c'était intéressant comme préparation aussi. J'ai parlé avec un professeur qui est un ancien toxicomane qui maintenant travaille pour aider les gens en toxicomanie, justement. Fait que, tu sais, j'ai parlé avec cette personne, on a travaillé... En fait, je trouve ça intéressant d'amener de l'humanité dans chaque personnage, puis de pas juste... je pense que c'est ce que tout le monde aime, là. Je veux dire, je pense pas que c'est spécial, là, mais...
ça fait partie du jeu d'acteur.
Oui,
mais
exact.
Plus que ça, c'est que finalement aussi, il y a notre expérience de vie qui entre en ligne de compte. Mais c'est parce que t'as fait beaucoup t'as travaillé énormément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, tu es capable même de donner ton opinion aussi. Tu as un regard quand tu travailles avec un réalisateur. J'imagine, est-ce que tu donnes souvent ton point de vue? Est-ce que t'as vraiment... Tu peux pas t'empêcher de dire ton mot là-dessus, quoi, sur le rôle?
je pense que il faut, dans le sens où moi, j'aime pas voir le métier d'acteur ou d'actrice comme celui d'une marionnette, là, tu sais, d'être « Allez, toi, place-toi là, fais ça, dis ça. » Mais y a des gens qui voient encore ça comme ça, mais moi, j'ai l'impression...
Il y a plus de collaboration, peut-être. Les réalisateurs, je pense, vous donnent quand même un peu plus de... Il y en a qui travaillent avec...
Bon, je dirais réalisatrice d'abord et ensuite réalisateur.
D'accord.
C'est le fun de... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient ces postes-là, mais là, de plus en plus, tu sais, moi, je travaille avec des femmes réalisatrices qui... Oui. C'est une autre façon de fonctionner, veux pas... ça a l'air grossier dit comme ça, mais... D'avoir une femme qui est leader aussi, mais...
Exact. Tu vois, avec Sophie Derasme, entre autres.
Exactement, Marc-Claude Blouin. Oui. Mais tout ça pour dire que oui, en effet, je pense que d'avoir une collaboration avec ces gens-là, moi, c'est ce que j'aime. Après, je pense qu'il y a des réalisateurs tristes qui fonctionnent pas comme ça, mais je pense que c'est peut-être moins ma...
Qui sont plus rigides, bien sûr,
qui se voient plus
directif.
Comme Manitou, là, tu sais.
Oui, mais je pense que c'est en voie de disparition. Puis bon, c'est...
Peut-être.
C'est fort heureusement. Oui, c'est une autre façon de travailler. Bon, est-ce qu'on se fait une petite pause? Non, on continue tout simplement, oui. Toi, les comédies musicales, ça a été vraiment une source d'inspiration aussi, j'imagine.
Ah oui, mon Dieu! J'ai tellement aimé les comédies musicales, j'aime encore
T'en
ça
vois
d'ailleurs.
Beaucoup?
Puis, j'essaye, je suis allée voir Starmania cette semaine.
Oh, chanceuse! Hey, mon Dieu, tu sais que ta mère et moi, on voulait aller et finalement, on n'a pas eu...
On a trop de travail.
Mais c'est sûr que ça va revenir ou que ça va continuer, je peux pas croire.
C'est ce que je disais, ça se peut pas.
J'ai rarement vu des belles affaires de même sur scène.
bon, ben, on prendra un billet d'avion. Qu'est-ce que tu veux s'il le faut?
Mais on s'est dit, faut y aller, mais on avait trop de travail.
Non, je sais.
Mais je peux pas croire qu'à Québec ou ça.
Il est peut-être pas trop tard aujourd'hui. Il y a peut-être
non, je sais, mais c'est parce que.
Ah, je comprends.
Oui, c'est ça, c'est parce qu'on n'a pas,
pas le temps. Vous avez checké vos affaires.
Ouais. Alors, bon, comédie musicale, bon, on sait que tout ce qui était Disney, alors c'est, ça a aidé oui. d'ailleurs, c'est le début de, pratiquement d'une carrière de doublage, ouais. forcément, parce que tu le faisais même. Par toi-même, c'est-à-dire tu refaisais les paroles, je pense.
Dans le sous-sol, là,
dans
chez
le
nous,
sous-sol, chez toi, oui.
On fermait le son du Roi Lion, puis on écrivait là, des paroles, des répliques.
C'est trop drôle.
Mais c'est ouais. ça, Catherine était petite, puis c'est ça, elle regardait le Roi Lion, mettait des paroles et tout ça, puis je pense qu'elle savait même pas que ça existait,
mais non,
le doublage,
mais non.
dans le fond.
Je comprenais pas c'était quoi le principe, mais moi, toutes mes peluches aussi avaient une voix particulière, puis ouais. fait que quand j'ai su que ça existait, le doublage, j'ai tout de suite eu envie d'en faire, ouais. parce que quelque chose qui est très anonyme aussi, où on donne vie à quelque chose qui nous appartient pas, puis je trouve que c'est magique aussi de pouvoir rendre accessible des projets en anglais aux gens
fait.
Ici. Puis...
Et des dessins animés, c'est vraiment ouais. parce que là, oui, tu as fait du Disney.
Tu peux faire de l'animation, tu peux faire des
chansons aussi. Justement, les premières fois que j'ai fait des films chantés. Ouais. Là,
et tu as suivi une formation, c'est sûr, parce que bon, tu as un excellent français international.
Oui.
C'est la base. Tu as un grain de voix particulier, tu peux modifier ta voix. Ouais. Donc, tu as une souplesse à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que tu en as fait tant. Je peux pas te... Écoute, ta mère m'a fourni finalement tout un dossier de
complet,
doublage.
Ouais.
Et je dirais, écoute, je sais pas combien ça fait de pages. Je dis, t'es sérieuse, là? Je vais être capable de tout lire ça?
Non. Mais...
non, je suis bien chanceuse aussi, dans le sens où je suis tombée dans un moment où j'ai eu des bons profs, j'ai eu Alain Zouvi, j'ai suivi les cours, j'avais l'intérêt. C'est plus facile quand t'es un enfant d'apprendre aussi. Ouais. Je suis contente d'avoir commencé si jeune parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Et comme Catherine lit beaucoup, parce que en fait, du doublage aussi, c'est de la lecture à première vue.
Oui,
et
vrai.
Catherine a toujours... Écoute, toute petite, Catherine, elle avait toujours un livre sous la main. Catherine, elle lit.
Ouais.
Catherine, elle aime lire.
T'as une grande culture.
Je sais pas si elle est grande.
Non, mais je pense que oui.
Oui,
ça dépend.
Maman confirme.
Fait que donc, elle lisait beaucoup. Et puis, j'allais...
Mais pour le doublage, ça aidait.
Non, c'est ça.
C'est qu'en fait, oui, parce qu'il faut être... D'abord, pour faire du doublage, il faut savoir bien lire.
Bien lire, exactement.
Parce que c'est vraiment de la lecture, mais il faut le jouer, d'accord.
Oui.
Mais je sais, je me suis initiée. Alors, évidemment, tu sais, c'est parce qu'il fut un temps où il y avait beaucoup de séries. Hein, on pouvait faire toutes sortes de rôles. Puis comme tu disais, commencer à faire des ambiances, toutes sortes de petits rôles.
Ouais.
Sauf que là, la profession a changé. C'est-à-dire qu'avec... il y avait moins de séries, il y avait plus de longs métrages, mm-hmm. mais des rôles dans des longs métrages, il n'y en a pas tant que ça.
Non.
Alors, ça a diminué la possibilité d'apprendre pour les autres. Alors, quelqu'un rentrait, ça faisait 20 ans qu'il en faisait, il faisait tous les petits rôles, là, la fille au dépanneur.
C'est un petit milieu, c'est serré.
C'est exact.
Ça. Puis Catherine, ce que j'allais dire, c'est qu'elle a commencé, les gens font de l'ambiance d'habitude pour commencer. De l'ambiance, c'est un groupe, mais les gens parlent, je pense, moi,
c'est ça.
Alors que Catherine, elle a passé une audition.
Oui, mais j'en ai fait de l'ambiance, j'en ai fait plus souvent qu'à mon tour. Là.
Oui, ce que je veux dire, c'est que tu as été chanceuse quand même au début, un film de Rock de Mers pour commencer, Regina, qui était un
été
beau...
Les comptes pour tous. Qui ont
ça a commencé comme ça, puis effectivement, tu as fait du... Oui, entre autres dans Harry Potter.
Oui.
C'est sûr.
Et puis, c'est ça. Il faut être une bonne, un bon lecteur, une bonne lectrice. C'est vraiment parce qu'il faut respecter, évidemment, la bande rythmo. Exactement.
Ouais.
Là, c'est ça. On parle de doublage, mais il y a plein d'autres choses, bien sûr, des comme on a dit, des séries télé, des choses du cinéma. Puis, en fait, vous vous retrouvez souvent dans votre milieu avec des amis parce que on pense à Xavier Dolan, qui a été quand même aussi important. Vraiment, tu t'es retrouvé dans des films. D'ailleurs, vous avez monté les marches à Cannes.
Oui, oh mon Dieu, quelle expérience. Ça, c'était quand même extraordinaire parce que c'était un film avec des amis. Il y avait moi, Samuel Gauthier, Antoine Pilon, Xavier, Pierre-Luc Funk, entre autres. Là. Mais de pouvoir vivre cette expérience-là de Cannes avec ces amis-là très proches, avec Xavier, que tu sais, on suit depuis qu'on est tellement jeune, puis de pouvoir l'accompagner finalement une fois, être là pour vrai sur les marches avec lui, c'était vraiment magique.
Ouais. Et puis aussi tu as joué, je veux juste souligner que tu as joué dans Faux départ avec Antoine Pilon, mais là aussi tu as eu à jouer des scènes plus intimes. Alors évidemment ça doit pas être évident pour maman.
Moi ça te dérange pas. J'étais là à la Au lancement. Ouais. Puis des gens venaient me voir, puis t'es-tu mal avec ça? Je dis, mais non, c'est son métier.
C'est ça.
Moi, donc, je n'ai aucun malaise avec ça. C'est son métier. Puis notre métier, il y en a, c'est la voix. Il y en a, elle, c'est la voix, le corps, c'est tout ça.
Oui, puis tu sais aussi que je ferais jamais ça si je n'étais pas à l'aise aussi.
Exactement.
Tu sais, quand on. Je veux dire, c'est des choix après aussi. Oui. Je veux dire, on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Puis quand on est à l'aise. Puis justement. Vu que je travaille, puis j'ai la chance, mais que je fais le choix aussi, je pense, de travailler avec des amis, puis avec des gens avec qui on a une vision semblable, avec qui c'est le fun de travailler, ben moi, ces scènes-là, ça me gêne pas du tout, parce que je me dis, ben c'est réfléchi, on les a travaillées, on sait ce qu'on veut faire, on sait pourquoi on le dit, on sait pourquoi cette scène-là est importante à montrer.
Oui,
puis...
elle est pertinente, c'est ça.
Oui, exactement.
On fait pas ça pour rien. C'est pas comme dans les vieux films français, là.
Oui, ouais, mais en même temps, moi, il y a quelque chose où je trouve que, tu sais, on parle de sexualité à l'écran, puis en effet, tant que c'est pas lubrique, puis tant que c'est pas avec un male gaze où on veut juste sexualiser les femmes, mais je trouve qu'il y a quelque chose avec les scènes d'intimité où on prend ça avec des pincettes, puis il faut que ce soit utile, puis il faut que ce soit nécessaire, mais en même temps, il y a tellement de scènes de violence pas nécessaires qui est montrée à l'écran.
Ah, ça, c'est bien vrai.
Dans tous les téléromans au Québec, il y a des violeurs, des enleveurs, des agresseurs. Ouais. Là, tout le monde est un malade mental de tueur fou au couteau, puis je me dis, voyons, ça, il y en a tellement.
Je sais. Et juste une parenthèse, les commentaires que vous avez eus, parce que vous avez eu à battre des chiens, mais
spoiler
pas vraiment.
Spoiler alert!
Mais... Ah, pour ceux qui n'ont pas vu, oui, effectivement. Mais il y a une scène, où des gens chialent parce qu'il y a des animaux qui...
Oui, il y a une scène dans une série dans laquelle... Je...
Oh, ben, ouais, on va dire.
Oui, ben, c'est juste pour éviter encore une fois les spoilers. mais oui, il y a une scène de maltraitance animale. Puis les gens ont écrit à l'auteur... T'es un malade, c'est impossible que tu montes ces choses-là. Puis, alors que dans la même série, il y a de la maltraitance sur les enfants. Puis personne dit rien.
Ouais, exact.
Fait que là, des fois, je trouve que en fiction, faut se ramener à. Premièrement, c'est de la fiction. Puis ensuite, ben, que ce soit une scène de sexe ou une scène de tuerie, je pense qu'en effet, il faut se poser les mêmes questions, peut-être, tu sais. Alors que la sexualité, on...
Donc, ça pose aussi le problème ben, du corps, parce qu'évidemment, toi, comme jeune actrice, à un certain âge, ben, tu as été préoccupée par le corps, c'est sûr, là, comme n'importe qui.
Comme pas mal
jeunes. Sûr. Donc, tu as été préoccupée par, entre autres, les troubles alimentaires. Tu en as fait une cause aussi.
Oui, exact. Je suis porte-parole pour ANEB, qui est Anorexie Boulimie Québec, qui vient en aide aux gens qui souffrent de troubles alimentaires, mais aussi qui viennent en aide à leurs proches, parce que oui, les personnes qui souffrent de troubles alimentaires sont les personnes à guérir, finalement, à rétablir, mais les gens qui sont les parents, les amoureux, les amoureuses de ces gens-là, ben, ont besoin d'aide aussi. Fait que c'est ce que ANEB offre. C'est une ligne d'écoute, les textos en ligne, des groupes de soutien...
ANEB pour Anorexie Boulimie Québec.
Exact. Ouais. Donc oui, je me suis impliquée, ça fait quelques années quand même, ça va faire 14 ans, je pense.
J'ai appris quelque chose aussi, je ne veux pas t'interrompre, mais parce qu'on parle d'anorexie, on peut parler d'orthorexie aussi, qui donne à peu près le même résultat, c'est juste qu'on est obsédé par le fait de bien manger.
Ouais,
alors
mais
ça, c'est un autre problème,
mais
tout le problème du corps, ça reste encore
toujours
dans l'image.
Il y a l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie, puis maintenant la bigorexie aussi, qu'on voit de plus en plus chez les hommes. Il y en a chez les femmes, évidemment, mais beaucoup de plus en plus chez les hommes qui sont touchés par les troubles alimentaires. Ça, c'est c'est l'obsession du corps musclé.
Oui.
Fait que, tu sais, ces troubles alimentaires-là, ils peuvent prendre plusieurs formes. C'est pas juste le typique, la fille très, très mince qui veut avoir l'air d'un mannequin. Fait qu'il y a beaucoup de préjugés aussi à défaire par rapport aux troubles alimentaires. Tu sais, à un moment donné, on était dans un kiosque, puis on parlait d'ANEB, puis il y a un père qui est venu avec sa fille, puis qui disait, bon, là, elle... Évidemment, là, comme toutes les filles, elle va être mince, fait qu'elle se fait vomir. Mais tu sais, un peu comme si c'était banal, alors que c'est tout sauf banal.
C'est ça.
Puis que c'est comme si c'était une lubie, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait contrôler, alors que les troubles alimentaires, c'est juste un trouble mental.
Oui, tout à fait. Puis c'est une forme de contrôle, on le sait.
Exactement.
Pour l'anxiété de performance.
Exactement. Beaucoup d'athlètes qui en souffrent. Donc, c'est important d'en parler, je pense, puis de faire connaître le fait qu'il y a de l'aide aussi. Puis que... Parce que c'est on le dit souvent, on peut se rétablir d'un trouble alimentaire, mais c'est vraiment pas facile. Non, fait que c'est pour ça que c'est important d'aller chercher.
Et puis c'est pour tout le monde, hein, parce que c'est pas juste pour les jeunes ou les jeunes filles. Là, c'est pour
Non.
L'autre chose, ben, t'as été évidemment. Donc ces causes-là, c'est depuis longtemps parce que t'as été porte-parole de l'UNICEF aussi, étant jeune. Hein, t'as voyagé un peu, t'es allé voir sur le terrain. Alors il y a plein d'autres causes. Je sais que tu as quand même d'autres causes aussi qui te tiennent à cœur. Là. Ouais. Mais bon, t'es une féministe, enfin bon, et tout et tout. Mais cela dit, ouais, ben parlons. Des projets qui s'en viennent.
Oui. Des projets. En fait, là, je suis en tournage en ce moment sur une série qui s'appelle Kamikaze, qui va être diffusée à Télé-Québec, qui est une série à sketch, pas post-apocalyptique, je dirais, mais sur tous les travers de la société qui font que ça va mal. Donc, je pense que ça va être très drôle, mais ça va aussi être un peu déprimant, un peu anxiogène. Un peu absurde. Fait que ça, j'ai très, très hâte que ce soit présenté.
Ravage?
La série Ravage aussi, qui est un drame écologique, un thriller écologique réalisé par Sophie Deraspe, qui va être en onde en 2000... Ben, je sais pas trop, en fait, fin 2024 ou 2025.
T'as aimé travailler avec elle?
Oui. C'était, on a eu la chance d'aller au Mexique ensemble aussi, donc c'était un très beau projet. Et il y a ça qui s'en vient. Anakiri, le film, qui devrait sortir dans la prochaine année. Et voilà.
Arrives-tu à te reposer?
Non, c'est ça. C'est quand on parlait d'équilibre, là, tantôt. Non, mais c'est pas vrai. J'ai passé un super bel été à faire du camping, puis à relaxer. Fait que c'est correct.
Et bientôt, le Festival de musique émergente.
Oui, en fait, je collabore cette année avec eux. C'est le Festival de musique émergente, c'est de Rouyn-Noranda. Donc, je m'en vais là, fin août. 29 août. Puis, j'invite les gens, pour vrai, à regarder parce qu'il y a encore des billets disponibles, des passeports à vendre pour aller voir ces shows-là, entre autres avec Podcast, qui recommence à faire des shows puis qui leurs billets se sont vendus en une seconde. Mais je pense qu'il y a encore des billets au FME. À Rouyn-Noranda, donc entre autres, là, puisqu'il va y avoir plein d'autres mondes, puis ça va être vraiment bon. Donc, je fais ça aussi.
Bon. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
La santé, le plus longtemps possible, je pense. Je pense que sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. Mm-hmm. Fait que...
Ouais. Est-ce que la réalisation, parce que tu as quand même réalisé des courts-métrages, hein? C'était produit.
J'ai écrit, mais oui, je travaille sur quelque chose en ce moment que j'aimerais bien réaliser, donc à voir.
Parce que tu as été aussi porte-parole de Plein Écran, c'est ça?
Oui, exact. Je les adore, Plein Écran, qui est un festival de courts-métrages en ligne.
Alors, donc, ça pourrait être une autre carrière. Évidemment, je ne doute pas que tu as plein, avec tous les talents que tu as, c'est sûr que, bon, alors on vieillit. D'abord, on ne dira pas, je ne sais pas ton âge, tu es vraiment...
33 ans.
Tu as 33 ans. Oui. Oh là là, quand même. Mm-hmm. Oui, alors ça veut dire que tu as du chemin à faire encore, puis plein de projets.
Il m'en reste en avant.
Devant toi. Ah là là.
Je touche du bois.
Et puis, mais est-ce que tu as des défis, là, justement, par rapport à tes projets à toi? C'est quelque chose qui te tient à cœur de faire tes choses à toi ou non? Pas nécessairement. Là.
Pas nécessaire. En fait, c'est que j'aime raconter des histoires, puis j'aime le milieu artistique, mais je ne suis pas à n'importe quel prix.
Je
priorise d'autres choses dans ma vie maintenant, puis je ne suis pas très.
L'équilibre.
Je suis pas très carriériste, en fait.
Ah, d'accord. Bon.
J'adore ce métier, mais je suis pas... Non, c'est ça.
Alors, on va y aller comme ça vient. Et puis... Alors, merci Catherine Brunet. Ça a été un plaisir,
c'était
vraiment.
C'était vraiment super. Merci.
Ah oui. Alors, puis je pensais te connaître, mais je te connais encore mieux, finalement. C'est bien. Alors,
merci de m'avoir
au plaisir. Puis merci, Nathalie,
merci à toi,
de nous avoir
présenté
ta fille.
Oh, on se retrouve lundi.